Oh non, 10 minutes, ça va être bon.
On y va.
Je vais faire ça vite. Parce que les étudiants, vous êtes censés avoir un peu bûché vos cours avant de venir. Sur le site du Collège de France, ils ont publié l'intégralité de mon texte. Donc, pour ceux qui vont rater 2-3 choses que je vais dire, c'est possible de le relire tranquillement, à tête reposée, toutes les punchlines que je vais sortir vite fait. Je ne m'excuse pas pour le retard. J'avais maille à partie avec l'éducation nationale sur son pendant professionnel. Vous savez, ceux qui fabriquent les ouvriers spécialisés que Bouygues, Bolloré et consorts vont exploiter dans quelques années. Donc voilà. Donc c'est normal d'être un peu à la bourre quand on s'occupe de choses de ce genre-là. Merci pour... d'avoir toléré un peu ce retard-là.
Bon, merci. Il n'y a pas de problème, on est là.
Mais c'est obligatoire. Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler des rêves de... Les rêves de Kong de Benger. Louis-Gustave Benger. En fait, cette histoire a commencé quand j'ai décidé d'aller voir la tombe d'un Français d'origine russe qui a pondu probablement les deux meilleurs albums de reggae talk over, il s'appelle Serge Gainsbourg. Et il a fait deux albums, un qui s'appelle Aux armes, etc. Et l'autre, Bad News from the Star, Mauvaise nouvelle des étoiles. Bon, en général, c'est pas bon de traduire en français. Bad News from the Star, c'est plus sexy que Mauvaise nouvelle des étoiles. Et il paraît qu'il a pas fait comme Jim Morrison et sa clique. Il n'a pas décidé de partir du côté droit de la scène. Il a voulu être chez les gens bien, là, où il y a le Collège de France. Donc on l'a enterré au cimetière du Montparnasse. Et en cherchant sa tombe, comme ça, je sais même pas ce goût pour la tombe, mais probablement c'est le petit côté africain que j'ai, qui est celui de célébrer les ancêtres, en fait, qui te marquent. Et l'idée, c'était de partir un peu en pèlerinage sur la tombe de cet homme qui avait des paroles incroyables et qui avait cette rythmie dans ces deux albums reggae qui étaient totalement surréalistes, en fait, qu'il avait réalisé en Jamaïque en 77 et 80. Et je me balade au cimetière du Montparnasse à la recherche donc, de cette tombe-là quand je vois une espèce de stèle sur laquelle est écrit exactement ceci. Louis-Gustave Benger, explorateur de la boucle du Niger, a donné la Côte d'Ivoire à la France. La France reconnaissante. Le gars, il était mort en 1936 et il a donné mon arrière-grand-père à la France. 322 000 km², 4 millions de négros gesticulant dans tous les sens. Lui, ce gars-là, il a donné ça à la France. Et je vois ça en cherchant la tombe de Gainsbourg, un russe. Et je me dis, mais je le connais, Benger. La capitale, la première capitale choisie de la Côte d'Ivoire, s'appelle Bengerville. Je connais ce gars, Louis-Gustave. Nous, on l'a étudié à l'école. Je connais rien de Babemba ou de Makoko, mais je connais Benger. Mais le pote avec lequel j'étais, il ne connaissait pas Benger. Mais tu rigoles ou quoi? Tu ne connais pas Benger? Il a donné la Côte d'Ivoire à la France, mon gars. C'est écrit sur sa tombe, en plus. La France reconnaissante. Reconnais, vite fait. Il ne connaissait pas Benger. Personne ne connaît Benger. Donc, le gimmick pendant tout le week-end, c'était de demander à tous les copains français que je connaissais. Alors, tu connais Benger? Tu connais Benger? Personne ne connaissait. Mais pourtant, toute la France lui était reconnaissante d'avoir donné une colonie si fondamentale, en fait, qui est aujourd'hui une colonie clé. Je dis encore une colonie clé, je ne parle pas de pays, qui est aujourd'hui encore une colonie clé de la France en Afrique de l'Ouest. Personne ne connaissait cet homme-là. Et je me suis dit, ah ben ouais, en fait, on a un problème. À partir de ce moment-là, j'ai décidé d'expliquer à mes amis qui était Benger. Et c'est ça l'objectif. C'était in situ au moment où ça s'est passé. Louis-Gustave, comme moi je l'ai appris à l'école, et puis j'en ai appris un peu plus tard, Louis-Gustave Benger est arrivé en Côte d'Ivoire en 1891, à peu près, à la suite d'un grand voyage qu'il a fait financer par Federbe, en fait. Federbe, le maréchal, là. Voilà. Federbe, qui était déjà venu en Côte d'Ivoire, qui avait traîné par là-bas, qui a construit un port. Et après la défaite de Sedan, ce mec, il était un peu dans redorer le blason de la France dans le monde, notamment en récupérant le maximum de colonies. Et Donc voilà comment le processus se passait. Ils ont tous appelé ça le rumble. Rumble, c'est ça, hein? Comme ça, c'est pas scramble, je pense que c'est rumble. Rumble in the jungle, quelque chose. Mais c'est dans la littérature, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Dans la littérature politique, quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire que c'est la ruée de la France, de l'Angleterre et de quelques autres petites nations satellites sur l'Afrique. Sur la foi d'une seule chose. Le premier venu fait signer un traité dont l'article premier est et, bonjour le chef négro, toi et tes amis là, d'abord commencez par vous mettre sous la protection de la France. Je caricature, mais c'est ça. Hein. C'est de la littérature politique hyper sérieuse. Et il fallait donc apposer une signature ou quelque chose comme ça en dessous. Et c'est sur la foi de ces papiers là qui concluait ce qu'on appelait à l'époque l'occupation effective du territoire, qu'on donnait ou assignait tel ou tel territoire à la France, à l'Angleterre, à l'Italie, ils se sont un peu mordus les doigts en Éthiopie, mais quand même, l'Allemagne peut-être, mais ils sont venus un peu plus tard. Et 1885, ici on considère hein, à peu près que c'est le vrai début, quoi. De la colonisation. Ça commence en 1885. En 1900, l'affaire est pliée. 15 ans. L'affaire est pliée justement par ces petits papiers-là que des explorateurs vont faire signer à des chefs nègres là-bas. Là-bas, dans la forêt. Qui pour qu'au total, bon, chez eux, la culture, c'est l'écriture. Chez nous, la culture, c'est l'oral. C'est quoi cette croix que tu mets? Bon, ben, peut-être le blanc, il pense vraiment ce qu'il dit, là. Et donc voilà, donc, Gustave Binger, il naît à Strasbourg, presque français, en 1856, à peu près. Et lui, toute sa famille, à cette époque, est tournée vers la France, lui particulièrement, parce que son père meurt dans l'indigence, en migrant comme un simple Syrien de l'Alsace jusqu'à Paris. Donc, évidemment, ouais, au mieux, il faisait ramoneur, ce qui est un métier assez, assez intéressant, parce que ça rendait les blancs noirs aussi. Symboliquement, il faut le retenir, ça. Et donc, ce n'est pas étonnant quand il a 25 ans, quand Binger décide de partir à la colonie, en fait, de partir à la colonie à partir du port de Toulon. Ce n'est pas étonnant, en fait, finalement, avec le passé de son père. Et donc, il fait ce trajet-là. Il commence à Dakar, ce qu'on appelait le camp des Madeleines. C'était le camp des joyeux et des tatoués. Là-bas, on rééduquait les gens. Les blancs qui ne marchaient pas bien, ici, on les envoyait là-bas pour leur montrer comment bien marcher et éventuellement les utiliser pour mater de la nation nègre, plus ou moins à côté. Bon, il se pose dans ce camp-là. Et plus tard, en fait, il a de la promotion très vite parce qu'il participe à pas mal d'actions comme ça sur le terrain. Et pour faire court, pour faire dans l'ellipse cinématographique, et il réussit donc à convaincre Federbe de financer une expédition en Afrique de l'Ouest qui a pour but de relier les colonies du Mandingue avec celles de la forêt du Golfe de Guinée, Grand Bassam Massini, Bamako. Donc, faire la tenaille et couper le chemin, l'herbe sous les pieds des Anglais qui attaquaient par la Gold Coast, la côte de l'or juste à côté. D'accord ? Donc, il se fait financer ce grand voyage-là, une balade à pied, une belle balade, qui va durer 2 ans. 2 ans pendant lesquels, entre Bamako et Assini, il va signer un certain nombre de traités. C'est-à-dire, c'est pas compliqué, hein ? Il arrive. Il ne devait pas être bien fringant en plus. Quand il arrive, quand il arrive dans un. Il n'est pas très fringant, il arrive, il est sale, ça fait des mois qu'il marche, quoi. Il a des porteurs, mais ces porteurs, ce ne sont pas ses esclaves, ce sont des employés qui viennent là. Bah oui, le blanc veut qu'on marche, qu'on porte ce truc, il va nous payer après, donc on y va. Donc ils le suivent, ce gars-là, dans son périple, comme ça, qui part donc de Bamako jusqu'à la côte d'Assini, jusqu'à Grand Bassam, globalement. Et l'objectif au milieu de ça, c'est de trouver la cité de Kong. La cité de Kong dans laquelle René Caillé était passé déguisé en arabe à l'époque. C'était une bonne époque d'ailleurs, puisque à cette époque, ils se déguisaient, ils avaient un peu peur quand même, ils se déguisaient. Donc, donc là, il arrive à Kong. Enfin, l'idée, c'est de trouver Kong. Et de qui dans sa tête, dans l'imaginaire populaire, est la ligne de répartition des eaux entre le fleuve, le grand Joliba, le fleuve Niger, et puis l'océan Atlantique. Voilà. Donc il arrive à Kong après un an de marche. Le mec, je vous passe les diarrhées hémorragiques auxquelles il a survécu et tout ça. Donc le gars, il arrive pas fringant, mais il tend le bras avec ce putain de traité. Pour dire, mettez-vous sous la protection de la France. Voilà. C'est comme ça qu'il arrive à Kong en 1891 à peu près. Et c'est au nom de ce voyage-là que la Côte d'Ivoire est devenue une colonie française. Donc il l'a donné. Et en 1893, la colonie de Côte d'Ivoire est décrétée ici, pas très loin, vers l'Assemblée nationale. Elle est décrétée ici. On ne sait pas qui est là-bas, mais ce n'est pas grave. Le type, il est venu avec les petits papiers. Donc c'est bon, il y a la croix qui va avec. Ce n'est pas grave. Ça appartient à la France. Il vote ça ici en 1893. Et Benger, de façon naturelle, est nommé comme le premier gouverneur de la République, enfin de la nouvelle colonie de Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, la nouvelle colonie française. Et voilà comment... on donne 322 000 km² de plus à l'Empire avec tous les négros qui traînent dedans. Voilà comment ça se passe. Et moi, c'est ça que je vois. C'est ça que je dis à mes amis à cette soirée-là. Voilà qui est Benger. Mais vous ne le connaissez pas. Mais Abidjan non plus, on ne le connaît pas. C'est vraiment parce que moi, j'ai mouillé le maillot pour savoir qui il est. C'est hyper important. Et en mouillant le maillot pour savoir qui il est, Je fais juste une parenthèse pour parler de l'année dernière. L'année dernière, en 2015, était le centenaire d'un des plus grands éminents professeurs du Collège de France, dans lequel on est en ce moment. Il a probablement bavardé à ce pupitre-là, il a probablement donné des leçons, ces formidables leçons de sémantique. Il les a probablement données dans cette salle-là. Donc, 2015, le centenaire de Barthes, Roland Barthes. Roland Barthes. Toute la France, toute l'année, il y a eu toutes sortes d'articles sur lui. Toute l'année. Mais toute l'année. Il y a eu des séminaires, des colloques, à n'en plus finir. La chambre claire, là, j'étais obligé de la relire au moins 4 ou 5 fois pour pouvoir suivre l'actualité de Roland Barthes, du centenaire. Il y a même eu ce roman formidable où on imagine ce qui s'est passé quand il a dîné avec Mitterrand juste avant de se faire renverser par cette maudite estafette. Tout le monde connaît ça, l'histoire de l'estafette, de Barthes et tout ça. Et toute l'année durant, nulle part, j'ai entendu ceci. Barthes, son grand-père, sa mère s'appelait Henriette. Henriette Benger. Benger. Le grand-père de Barthes a donné... C'est formidable, ça donne de l'espoir. Et l'Afrique s'écrit dans ce qu'on ne dit pas. C'est ça, le truc. Personne ne s'est dit, c'était son premier petit-fils, personne ne s'est dit que cet homme-là, ce fils de colonialiste, qui a, d'ailleurs, c'est pas, à la limite, c'est pas un hasard s'il a développé un tel sens de la sémantique, de la valeur du mot. C'est probablement pas un hasard, c'est probablement en dansant sur les genoux de son grand-père baladeur qui avait des rêves de Congo. Personne n'a jamais mentionné ça. Absolument personne. C'est vrai, il y a quelques spécialistes qui le savent, mais qu'en est-il de la doxa, de vous, nous ? Qu'en est-il de nous qu'on veut éduquer en montant comme ça Barthes pendant toute l'année de son centenaire, en le montant au paragon de ce qu'on fait comme de l'intellectualisme, de la réflexion française. Ce mec-là a modélé la pensée, la manière de parler. Personne ne dit que son grand-père a donné. Personne ne dit qu'il a écouté les voyages. Il a écouté, c'est dans la musique de son grand-père qu'il a appris certains mots. C'était le petit-fils chéri en plus, celui qui n'avait pas un papa très présent, celui qu'on faisait danser sur le genou. C'est important, ce n'est pas dit, mais c'est hyper important dans l'œuvre de Barthes, son ascendance coloniale, hyper important. Et moi, mon Afrique d'aujourd'hui s'écrit dans ce que l'histoire ne dit pas. Dans ce que l'histoire ne dit pas des rêves de Kong. Dans ces gens-là qui avaient la francisté houspillée par l'Alsace et la Lorraine, 1871, c'était allemand. Le mec, il ne savait même pas parler français. Il ne savait pas parler français. Il a commencé par un gloubi-boulga proto-germain avant de commencer à parler français. C'est celui-là qui a donné l'histoire. L'Afrique d'aujourd'hui se doit de s'écrire dans ce que son histoire ne dit pas. Donc, ce savornien de Brazza, ça ne vient pas du Loir-et-Cher. Voilà encore un autre, à la francité houspillée, incertaine. Tous ces gens-là, tout cet apport de tous ces gens à la francité, pas clair, qui ont apporté l'empire à toute la France et dont on ne parle jamais. Voilà. Donc c'était ça, les rêves de Kong, de Bingé, les rêves de Kong, de Bingé, il ne savait pas, il ne s'imaginait pas qu'il allait à la recherche de la ligne de séparation des eaux. En fait, il allait à la recherche du confluent de toutes les eaux, en fait, de toutes les cultures. Et ça donnait nous tous ici présents. Et c'est hyper important de le souligner. Et continuons de rêver. L'Afrique a été colonisée justement par ces rêves-là. On va la décoloniser en rêvant aussi. Voilà, merci.
Bon, mais merci. Gauze. Je crois que le scoop est passé. Hein? Maintenant, on dira, c'est lui qui a donné. On monte là-bas de l'autre côté. Non, mais je pense que c'est cette vision également que je souhaitais en t'invitant ici. Je connais les longues discussions que nous avons et cet enthousiasme de la culture que tu as. J'apprends toujours beaucoup aussi, même dans la vie courante. Hein? Donc, dans la poursuite de cette démarche, artistique même, Dieudonné Nyanguna, donc le dernier de ces panels, Dieudonné Nyanguna, est né au Congo-Brazzaville, donc dans mon pays d'origine, après des études à l'École nationale des beaux-arts à Brazzaville. On a parlé tout à l'heure des savoirniens de Brazza. Donc à Brazzaville, il va s'orienter vers le théâtre et jouer dans plusieurs compagnies locales au pays. En 97, pendant la guerre civile au Congo-Brazzaville, il a senti la nécessité d'exprimer ce qui se passe dans la rue et a fondé avec son frère Chris Nyanguna la compagnie Les Bruits de la rue. Il signe aussi des textes et des mises en scène de La colère d'Afrique, Bye Bye Carré Blanc. En 2006, il a mis en scène et joué dans La solitude des champs de coton de Coltès, présenté en France, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Écrite pour certaines dans le cadre de ces résidences d'écriture, créer pour d'autres dans le cadre des coproductions avec des théâtres français, ces pièces sont jouées en Afrique, en France. Et en juillet 2013, il a présenté au Festival d'Avignon son spectacle Seda. Récemment, nous sommes allés le voir au théâtre du Tarmac à Paris. Dieudonné Nyangouma a interprété Machin la hernie de Sonny Laboutancy dans une mise en scène de Jean-Paul Delors. C'était une prouesse saluée non seulement par la critique, mais aussi par le public. Et je vous dis que dans mon appareil photo, je n'avais cessé de le mitrailler. Écrire et jouer l'Afrique aujourd'hui, tel est le titre de ces interventions. Je sais que nous avons brûlé du temps, mais quand il y a de belles paroles comme ça, le ventre peut un peu attendre. Dieudonné Nyangouma.